Salut à toutes et à tous, c'est Lola, il est midi 15 sur le 94 FM, vous écoutez 3 en 1.
C'est beau, c'est agréable, moi c'est ma balade phare.
Quant à vous aujourd'hui, notre périple en Bretagne, c'est une grande région française, c'est une région qui comporte combien de départements, monsieur ?
Il y a
les villages.
Qu'on n'a pas de déboires.
L'agriculture est en train de crever. Sincèrement, toute production confondue, toute filière.
La rue répond.
De venir de Paris, de Lyon, de Bordeaux, tout le monde sait qu'à Rennes, il se passe quelque chose.
Bienvenue dans 3 en 1, c'est votre émission d'actualité locale de Canal B le lundi et le mercredi de midi 15 à midi 45 et en rediff les mardis et jeudis matin à 8h15. Et aujourd'hui, pour cette première édition de l'année, on va parler de crypto-monnaie et d'éducation aux médias avec Julie, Manon et leurs intervenants.
Et oui Lola, pour ma part, il n'y a pas vraiment d'actualité, simplement un intérêt personnel pour la blockchain et les crypto-monnaies. Et donc je me suis entretenue avec Olivier Saroui, qui est maître de conférence à Rennes 2, pour discuter des enjeux autour de cette technologie et de l'outil que ça pourrait être pour les citoyens, parce que c'est pas qu'un outil de spéculation pour des Américains imbus d'eux-mêmes.
Et toi Manon ?
Alors avant les vacances, je me suis rendue à une conférence sur l'éducation aux médias et à l'information, et j'ai préparé une chronique sur le rôle des radios associatives comme Canal B dans l'éducation aux médias et à l'information pour tous les publics et pas seulement les scolaires.
Alors cette semaine, pour le retour de 3 en 1, on vous propose aussi un programme un peu particulier. Il y aura une émission vendredi sur l'horaire habituel de 3 en 1, donc de midi 15 à midi 45, un créneau qui est dédié aux émissions spéciales. On vous propose une émission spéciale sur le Venezuela avec une organisation un peu particulière. On va parler géopolitique depuis que le président Nicolas Maduro a été capturé par les États-Unis. On ne vous en dit pas plus, on vous garde un peu de suspense sur le sommaire de cette émission qui aura donc lieu vendredi 23 janvier. Retour sur l'émission du jour avec Julie qui est avec moi sur le plateau. Mais dis-moi Julie, t'as l'air un peu énervée aujourd'hui.
Mais ouais, l'autre jour, en fouillant les archives de ma scolarité, je suis tombée sur une appréciation de bulletin de Monsieur Impuissant. Et oui, ce n'est pas une blague, ce monsieur s'appelait vraiment Impuissant. Et pourtant, il ne manquait pas d'impuissance à écrire, je cite, « Je n'ai jamais entendu le son de sa voix, ce qui pourrait laisser penser à un mutisme pouvant potentiellement découler à un trouble autistique. » Et oui, car Monsieur Impuissant était aussi apparemment médecin. Et à côté de moi, Anthony était réservé mais autonome, alors même qu'Anthony urinait dans ses friggin' fluo au moment de passer au tableau.
Et oui, c'est la drôle de découverte du journal Le Monde, le sexisme dans l'appréciation des bulletins scolaires.
En effet, le 13 janvier dernier, deux chercheuses de l'école d'économie de Paris Institut montrent qu'à compétences égales, filles et garçons ne reçoivent pas les mêmes appréciations sur les bulletins scolaires. Les bulletins de 600 000 élèves, filles et garçons, de terminale scientifique entre 2013 et 2017 ont été passés en revue par les chercheuses et elles montrent que parce que la filière scientifique est principalement masculine, les profs ont plus tendance à mettre en avant les compétences des garçons. Là où un garçon clairement timide est jugé immature ou endormi, la fille, elle, est jugée comme exemplaire et irréprochable. Car c'est bien connu, tout irait mieux si les femmes restaient discrètes.
Et il y a un autre adjectif qui ressort, et cette fois que pour les filles, c'est souriante.
Et ouais, à croire que tous les garçons ont la dentition de Jacouille la Fripouille. En tout cas, qui sait, si Monsieur Impuissant n'avait pas écrit cette appréciation, je serais peut-être diplômée de Polytechnique. Et à la place, je suis ici, service civique à Canal B. Non, mais plus sérieusement, cette étude montre que ces appréciations influent énormément sur le choix de parcours scolaire en fonction du genre. Et 9 ans après, ça n'a pas beaucoup changé. Les filières scientifiques restent majoritairement masculines. 17% des bachelières qui poursuivent des études optent pour des disciplines scientifiques contre 44% des garçons. Et le reste du pourcentage féminin opte pour des études littéraires selon le ministère de l'Enseignement supérieur. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je n'avais réellement rien à faire des cours de Monsieur Impuissant. Quant à lui, Anthony était bel et bien timide. Et il n'y a rien de mal à ça.
Merci Julie, et tout de suite, votre pause musicale.
Girls in the city hit Shea Margaux. Drinking any hum, we're eating escargots. Pulling on my credit card, Wells Fargo. Take it to the bank, that is just for show. Boys in the city hit Casablanca. All up in my phone like
it's abracadabra. Couldn't say I had no choice in the matter. Thank God I didn't drop out of college. Borderline non-alcoholics. Misunderstood, maybe I should be given a new introduction. Hi, my name's Ingie with two eyes. I like parties but I don't get high. I like Doechii, I like Doja. I make music, I'll play Lola. Came here from the east and I don't mean the east coast. Shout out Istanbul, layover Heathrow. Sarma and meatloaf, don't even know how to rap. Put a check on my ego. Even my mama doesn't buy it but I wanna win a Grammy. Show it to my granny in Sarıyer. Sebem hep senden başka sınıf Türk. Bir kadın yürüyor doldurun. It's cool, I don't care that I'm looking a fool. Yeah, it's the only thing I wanted since equal cool. And that means school. Been to Berlin, Paris, New York, but my heart beat for Istanbul.
Vous écoutiez Istanbul de l'artiste turc Ingie. Vous êtes toujours dans 3 en 1 et je passe désormais le micro à Julie pour l'interview du jour pour parler d'un sujet un peu spécial.
Vous avez sûrement déjà entendu parler du Bitcoin et si vous n'êtes pas familier avec cette crypto-monnaie, vous pensez peut-être que c'est un truc de geek ultra riche. Spoiler alert, ça l'est pas tellement. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la technologie sur laquelle reposent les crypto-monnaies, la blockchain. Si pour certains, elle peut paraître inaccessible, pour d'autres, elle est considérée comme la seconde révolution d'Internet. Conçue dans une pensée libertarienne, elle a pour but d'indépendantiser de toute structure ses utilisateurs. Mais si depuis quelques années, cette technologie tend à se droitiser, on va essayer de comprendre en 3 en 1 si elle peut toujours servir comme un outil d'émancipation collective. Pour répondre à mes questions, Olivier Saroui, maître de conférence en sciences de la communication, spécialisé en philosophie et sociologie du numérique à Rennes 2, est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
On vient un peu de parler du fonctionnement de la blockchain en introduction. Est-ce qu'on peut dire que dans cette logique d'émancipation collective, c'est la pluralité des acteurs qui permet la validation des transactions?
Ouais, l'idée c'est que ce soit le plus distribué possible. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est vite technique. On peut évaluer le degré de décentralisation des différentes technologies qu'on peut mettre en œuvre pour aboutir à ce qu'on appelle un consensus distribué. C'est ça le problème un peu en informatique théorique. Et l'idée c'est que ce soit le plus décentralisé possible, de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas un acteur malveillant qui puisse falsifier l'historique des transactions, inventer de l'argent ou supprimer de l'argent à quelqu'un d'autre. Enfin, de l'argent ou des données de manière générale, parce qu'on peut faire autre chose que du transfert d'argent sur une blockchain. Bon, sachant que c'est compliqué d'avoir à la fois une très grande décentralisation, en même temps une sécurité très forte, et en même temps de la vitesse de traitement des transactions, quoi. C'est-à-dire que si vous pouvez valider qu'un échange financier toutes les 10 minutes, bon, c'est pas très utilisable dans la vraie vie. Et donc l'idée, c'est de trouver un équilibre entre ces trois caractéristiques d'une blockchain, et d'essayer de trouver des solutions qui arrivent à composer un peu tout ça. Entre la proposition de Satoshi Nakamoto en 2008 et ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses et on a eu beaucoup d'innovations dans des domaines mathématiques assez avancés et très, très complexes qui permettent de régler un peu mieux ces problèmes. Mais l'idée, oui, c'est d'avoir quelque chose qui est le plus décentralisé possible et qui soit le moins facilement monopolisable par un acteur, quelle que soit sa nature, un acteur d'État ou un acteur privé.
Donc, tu viens de nous expliquer que la blockchain, elle tend à contourner la centralisation et le monopole, mais si elle existe, c'est quand même grâce à des serveurs, donc c'est qu'il y a des gens derrière. Comment ça se passe en fait? Qui décide?
Ben, l'astuce, c'est que, alors ça dépend des blockchains en fait. Maintenant, comme il y a eu une explosion de blockchains dont chacune essaye d'apporter sa petite spécificité et que c'est devenu un business entre temps, ce qui n'était pas le cas à la base c'était un projet cypherpunk, qui est une sous-culture américaine un peu libertarienne, qui avait beaucoup lutté en fait dans les années 90, début des années 2000, contre les dispositions à la surveillance de l'État américain. Et c'est cet héritage-là dont se réclamait Satoshi Nakamoto. Aujourd'hui, c'est devenu une industrie, et donc il y avait des gens qui créaient des blockchains, des nouvelles technologies, derrière des entreprises, quoi. Et du coup, effectivement, c'est assez centralisé, c'est eux qui décident de l'évolution de ces technologies, de comment elles fonctionnent, de quel est le protocole derrière, etc. Si vous prenez le cas de la blockchain de Bitcoin ou de la blockchain d'Ethereum, par exemple, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. La blockchain Bitcoin, c'est un consensus informel de développeurs. En fait, c'est les gens qui codent le logiciel, qui se mettent d'accord sur comment est-ce qu'il doit évoluer, quelles nouvelles features on rajoute ou quelles on enlève, est-ce qu'on fait évoluer le protocole ou pas. Dans le cadre de la blockchain Ethereum, c'est principalement planifié par une fondation qui a été montée par le créateur. On n'était pas tout seul, mais c'est lui qui a mené l'impulsion, et c'est encore lui qui, de loin, et encore une fois, il n'est pas seul, mais qui dirige un peu le projet ou qui en est la figure de proue, quelqu'un qui s'appelle Vitalik Buterin. Et pareil, c'est un consensus entre les différents développeurs, en fait. C'est-à-dire, c'est la logique derrière, c'est un peu la duocratie, quoi. C'est-à-dire que c'est ceux qui codent le protocole qui sont en charge de décider de son avenir. Avec ses subtilités, c'est qu'en fait, si vous en avez les compétences techniques, vous êtes, enfin, n'importe qui est libre de venir proposer sa petite modification, sa brique à l'édifice, et que si ça fait sens pour le reste de la communauté des développeurs, vont dire, bon, bah, en fait, ton idée, elle est chouette, viens, on en discute, on se met d'accord, on fait des visios, il y a toute une série de dispositifs de forums, de GitHub, etc., pour discuter de ces choses-là.
Tu parlais de Ethereum tout à l'heure, et de la blockchain Ethereum. Est-ce que, quand il y a blockchain, il y a crypto-monnaie, et est-ce que la blockchain est dédiée à la crypto-monnaie, ou alors on peut l'utiliser pour d'autres pratiques ?
Non, en fait, la blockchain, de manière plus générale, c'est pas forcément limité à la question des crypto-monnaies, c'est donc une technologie qui permet globalement d'aboutir à un consensus de manière distribuée, et donc d'avoir une espèce de base de données distribuée dont chacun peut s'assurer de la validité mathématiquement, quoi. Bon. Et donc, cette base de données décentralisée, on peut stocker plein de choses dedans. Ça peut être effectivement des historiques de transactions financières, c'est ce qu'a proposé le Bitcoin. Ça peut être de la traçabilité de produits sur une chaîne logistique. Ça peut être n'importe quel type de base de données, à vrai dire, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez dessus. Évidemment, une blockchain, c'est une technologie un peu complexe, qui en termes computationnels, en termes de capacité de calcul, n'est pas optimum, parce que précisément, il doit y avoir toute une série de garanties qui sont mises en œuvre et de calculs qui sont mis en œuvre pour assurer la validité de manière distribuée de ce qui se passe dessus. Donc, on s'en sert uniquement quand il y a un réel enjeu à avoir, disons, une base de données distribuée sans un tiers de confiance. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas stocker ces données, ces transactions financières ou des processus de vote, par exemple? C'est une autre raison pour laquelle la technologie blockchain peut être utilisée. Bon, voilà, je veux dire, vos photos de vacances, qu'elles soient stockées sur les... ou photos Instagram, qu'elles soient stockées sur les serveurs centralisés d'Instagram, enfin de Meta, du coup, bon, c'est problématique par plein de raisons, mais il n'y a pas un enjeu d'État, il n'y a pas un enjeu économique derrière qui est à ce point important. Donc, on va utiliser la technologie blockchain quand vraiment la question de l'intégrité, de l'incapacité à falsifier les données, etc., est très important. Donc, c'est beaucoup des applications financières ou économiques, c'est beaucoup des applications de vote, par exemple. C'est de plus en plus maintenant des applications justement de traçabilité, de chaîne logistique, de chaîne alimentaire, etc. Bon, alors c'est pas le meilleur exemple du monde, mais Elon Musk avait proposé de mettre un certain nombre de données d'État sur une blockchain pour que justement elles soient infalsifiables, etc. Bon, donc il faut qu'il y ait quand même un enjeu à ce que ces données soient transparentes, accessibles à tous, non falsifiables, etc. Sinon, ça, le coût d'usage de ces technologies vaut pas la peine si c'est pas des trucs un peu tricky qu'on essaye de sécuriser, quoi.
Et est-ce que il y a des initiatives plutôt citoyennes aussi, plutôt sociales, qui sont prises grâce à la technologie de la blockchain? Est-ce que tu as des exemples?
Oui, il y a un certain nombre de choses qui se passent. Alors, c'est pas les choses qui sont les plus visibles le plus souvent, mais il y a un certain nombre d'initiatives, d'ambitions plus ou moins importantes qui apparaissent. Bon, il y a des exemples de cagnottes. On a eu l'exemple il y a quelques années pendant le mouvement des Gilets jaunes du boxeur, là, Christophe Tétinger, je sais plus comment se prononce son nom, mais avant d'être jugé, justement, avait ouvert une cagnotte, un ami à lui avait ouvert une cagnotte qui avait été fermée par, je crois que c'était Litchi, la plateforme qui l'hébergeait. Ensuite, l'État s'en était mêlé, etc. Donc, il y a des systèmes de cagnotte qui reposent sur des technologies de crypto-monnaie permettent justement d'avoir une dimension incensurable et d'éviter ce genre de fermeture forcée. À des échelles plus locales, moi, je discutais avec une amie il n'y a pas très longtemps, Maïline, que je salue. Bonjour Maï. Qui essaye de mettre en œuvre des systèmes de sécurité sociale féministe, justement, en utilisant cette technologie. L'idée étant de dire que, en tant que collectif féministe, on peut avoir envie, ça peut faire sens de mettre de l'argent en commun pour faire face aux moments un peu difficiles de la vie. Vous êtes avec un compagnon qui est violent potentiellement, vous devez partir de chez vous, c'est souvent des considérations économiques qui est plus difficile pour les femmes de s'en aller, de s'échapper de la violence. Comment est-ce qu'on pourrait trouver des systèmes pour mettre de l'argent en commun et décider de la manière dont on peut ensuite utiliser cet argent, à qui on le distribue, etc. C'est ce qu'on appelle dans le langage de la blockchain des DAO, pour Decentralized Autonomous Organization, des organisations autonomes distribuées. Et donc on a discuté de ça, parce que mettre en place un système comme ça à travers le système bancaire traditionnel, c'est un peu compliqué, il faut créer des comptes communs, c'est un complexité administrative qui est pas simple, ou alors faut s'établir en association, mais là aussi du coup c'est des enjeux administratifs derrière qui sont pas les mêmes. Parmi ces gens peuvent y avoir des gens qui sont en situation difficile, des personnes exilées qui n'ont pas forcément les papiers, qui peuvent pas forcément avoir de compte bancaire en France. Bon, y a toute une série de choses qui font de situations dans lesquelles l'usage des crypto-monnaies, dans ce cas-là de simple, d'immédiatement accessible, dans la façon dont ça permet de contourner les institutions et leurs mécanismes de contrôle, peuvent être très intéressantes aussi parce qu'elles permettent assez simplement de mettre en place des règles justement d'utilisation de l'argent qu'on met en commun qui sont très simples et qui sont mises en œuvre de manière non discutable d'une certaine façon, parce que c'est des petits bouts de programme informatique qui décident quoi. Une fois qu'on a mis les logiques de décision dans le programme, c'est le programme qui décide. Donc oui, il y a toute une série de cas d'usage où ça peut être absolument passionnant.
C'était Just Do You de Lord Echo en featuring avec Mara Teka. Et tout de suite, on retourne en plateau pour la deuxième partie de l'interview du jour avec Julie, qui est accompagnée de Olivier Saroui, enseignant-chercheur. Ensemble, Yael cherche à comprendre où en est la question de la blockchain comme outil d'émancipation collective.
Donc là, tu nous parlais de projets donc, qui sont plutôt européens, mais on sait que c'est quand même une technologie qui est beaucoup plus utilisée dans le reste du monde, notamment aux États-Unis. Est-ce que tu saurais expliquer pourquoi en fait il y a une différence d'utilisation? Est-ce qu'il y a une sorte de méfiance?
Alors il y a plusieurs choses qui expliquent que le truc de la crypto est, je crois, principalement américaine. On a quand même des hubs assez importants en Europe, notamment à Berlin, notamment à Lisbonne. Mais effectivement, c'est une technologie, donc, bon, à peu près comme toutes les technologies numériques, est essentiellement, dont le développement est particulièrement américain. Du point de vue du rapport à l'État aussi, c'est pas le même. L'Europe est très méfiante des crypto-monnaies pour diverses raisons qui sont plus ou moins... certaines peuvent être entendables, de protection contre les arnaques, contre les levées de fonds un peu sauvages qui ont été faites, où les gens se sont fait voler leur argent, ce genre de choses. D'autres qui sont beaucoup plus obscures et politiquement compliquées, comme le problème de la traçabilité des transactions. L'Europe, à vrai dire, a un projet de crypto-euro, mais dont elle entend qu'il soit construit sous son contrôle, et qui en fait est supposé accompagner un projet d'abandon du cash, de la monnaie liquide, dont l'objectif, plus ou moins assumé, est d'avoir une traçabilité totale de toutes les transactions économiques en Europe. Les États-Unis ont longtemps eu le même rapport à ces choses-là, aux cryptos, et un rapport de méfiance avec des dispositions judiciaires assez agressives, quoi. Depuis l'élection de Trump, ça a changé. Trump a fait campagne en partie sur la question des crypto-monnaies en se présentant comme le défenseur des crypto-monnaies parce que la liberté d'entreprendre, ce genre de truc. La crypto, c'est une arme pour Trump, c'est une arme de... économique, financière, pour asseoir la domination du dollar à l'échelle mondiale. Bon, donc c'est aussi une stratégie américaine qui, du coup, maintenant est beaucoup plus, disons, souple et essaye de réguler et d'institutionnaliser l'usage des cryptos parce que ça fait partie de son agenda politique ou économique, à vrai dire.
Donc la blockchain, c'est une technologie qui promeut l'anonymat et la décentralisation.
Et qui pourrait aussi donc faciliter des financements illicites et des blanchiments d'argent. Est-ce qu'il y a donc besoin de réguler son utilisation ?
Bien souvent, la régulation, elle est justifiée par des mesures qui paraissent être de bon sens. Ça finance des activités criminelles ou ça permet à des activités criminelles d'être intraçables. Quand en réalité, les rationalités politiques et les objectifs politiques qui sont poursuivis derrière sont souvent beaucoup moins nobles et beaucoup plus policiers, à vrai dire, quoi. C'est-à-dire que sous prétexte de... c'est l'éternel problème, quoi. C'est sous prétexte de pouvoir éventuellement contrôler quelques activités sur lesquelles on pourrait effectivement faire consensus sur le fait qu'on préférerait qu'elles n'existent pas, on va s'autoriser à surveiller toute une population H24 et à pouvoir accéder à la traçabilité de l'ensemble des interactions économiques de tout le monde H24, quoi. Bon, on a eu l'exemple en France avec les lois qui ont été passées après les vagues d'attentats terroristes en 2015, où d'un seul coup, toute une série de lois sont passées pour justifier une série de mécanismes de contrôle de surveillance qui étaient supposés pas être inscrits dans l'état de droit. Il y a des moments d'exception qui finalement ont été inscrits dans le droit commun. On a eu le même truc qui s'est produit là avec les Jeux Olympiques, où sous prétexte de, dans le cadre des Jeux Olympiques, de manière très située, d'autoriser la reconnaissance faciale, par exemple à travers les caméras, l'utilisation de drones pour faire de la surveillance un peu de masse, qui devait être un truc expérimental très situé, en réalité en train de s'étendre et d'être petit à petit inscrit pareil dans le droit commun, puis ça va devenir la norme. Sur les crypto-monnaies, on observe la même chose, quoi. C'est-à-dire que pour sous prétexte de lutter contre des activités qui en fait sont très minoritaires par rapport au volume d'échanges qui est en crypto-monnaie, on va justifier le fait qu'il faudrait que l'ensemble des flux financiers et des flux économiques de tout le monde soient justifiés. Et en fait, on sait très bien que ceux qui vont en souffrir, c'est pas tant les criminels qui sont à la tête de systèmes excessivement complexes, ils arriveront très très bien à s'en dégager parce qu'ils font ça depuis des siècles. Et si vous avez de l'argent, vous savez comment échapper au système de traçabilité, quoi. C'est les gens ordinaires, c'est les gens qui renvoient de l'argent à leur famille, au pays, parce qu'ils font partie de la diaspora et que c'est des exilés. C'est les gens dont on va essayer de voir, mais du coup, s'ils envoient de l'argent là-bas, est-ce qu'ils sont en France légalement ou illégalement bon, ceux qui vont en souffrir, je pense pas que ce soit les gens qui sont supposés être visés par ces lois de contrôle, quoi. C'est le cas à chaque fois et ça risque de se reproduire à l'infini. Donc, la question de la régulation, elle est compliquée, parce que souvent, elle sert pas les buts qu'elle prétend servir la plupart du temps.
Mais du coup, on vient de parler de l'importante présence des industries et des institutions. Est-ce que la blockchain, aujourd'hui, elle peut toujours être un outil d'autonomie pour ses utilisateurs ?
C'est devenu un champ d'affrontement politique, hein, le secteur de la blockchain, dont on ne va pas se mentir, au fil des dernières années, il a pris plutôt une sale tournure. En réalité, le seul écosystème qui résiste encore très fort à la droitisation du monde de la tech, à la fascisation du monde de la tech, c'est l'écosystème Ethereum. Parce que en partie par la figure de son fondateur, donc Vitalik Buterin, qui est quelqu'un qui a su rester très prudent vis-à-vis de tout ça. Les entrepreneurs de la crypto ont beaucoup appuyé la candidature de Trump, par exemple, précisément parce qu'il leur promettait de la régulation, il leur avait promis l'arrêt de toutes les poursuites qui avaient été lancées par la précédente administration Biden contre toute une série de projets en crypto, etc. Il les a invités à dîner à la Maison Blanche après son intronisation, etc. Ils sont tous allés, serrer la main du pouvoir, etc. Le seul qui a refusé et qui n'est pas allé, je ne sais même pas s'il avait été invité du coup, mais c'est Vitalik Buterin. C'est un écosystème qui est rempli dans les développeurs de gens queer, de gens qui correspondent pas forcément au profil de la finance traditionnelle, etc. Et qui politiquement défend quelque chose qui était en fait un peu à la racine de ce qu'on trouvait justement dans les milieux cyberpunk à une époque. Il est vrai que le reste des écosystèmes s'est beaucoup droitisé, comme c'est droitisé tout le reste de la tech dans les quelques dernières années. Hein. Bon, on a vu ce qui s'était passé dans la Silicon Valley avec la campagne de Trump, etc. La crypto a suivi à peu près le même chemin, elle a senti le vent tourner, et puis elle n'a pas trop hésité à tourner sa veste, quoi.
Et est-ce qu'il y a un espoir un peu que ça retrouve un peu son utilité première ?
Ouais, mais je pense que comme tous les technos... Bon, vous voyez, de la même manière que le Internet et le web qui avaient pareil été inventés avec des espoirs politiques assez forts, de un peu identiques, hein, de libération, de la parole, de décentralisation, de rupture des monopoles médiatiques, etc. Bon, on voit bien ce que ça a donné avec le temps. En réalité, c'est d'autres monopoles qui se sont mis en place, dont il s'avère qu'à vrai dire, ils sont encore plus puissants que les monopoles qui étaient supposés révoquer. Mais il n'empêche qu'à côté de ça, c'est un espace où, de manière minoritaire, peut se constituer comme un espace de liberté qui n'était pas accessible avant, et où effectivement vous pouvez malgré tout toucher et interpeller toute une série de personnes un peu partout dans le monde, depuis votre canapé, depuis votre téléphone, etc., et que politiquement ça fait quand même une différence par plein d'aspects. Il n'empêche que ces technologies ont été conçues de telle sorte à rester des technologies incensurables, à rester des technologies qui sont difficilement inarrêtables, que des gens continuent de se battre pour qu'il y ait de l'anonymat qui puisse exister sur ces technologies, et que donc, même si le gros des investissements derrière ne poursuit pas des objectifs qui sont politiquement très heureux, c'est des technologies qui permettent de faire des choses qui peuvent être chouettes. On parlait de la, truc de la sécurité sociale féministe. C'est des technologies qui permettent de faire ça qui n'était pas possible avant. Ça permet à toute une série de gens d'exilés de la diaspora de pays divers et variés, que ce soit en Afrique subsaharienne, que ce soit en Amérique latine, d'envoyer à frais nuls de l'argent chez eux sans que ce soit traçable par leur gouvernement, sans que ce soit arrêtable, sans que ça se prenne les 7% dans la tête qu'impose Western Union quand on veut envoyer du cash. Ça permet de mettre en place des processus de gouvernance qui soient décentralisés, d'expérimenter avec toute une série de processus de gouvernance collective justement un peu originaux. Ça permet d'expérimenter avec des mécanismes de revenus universels. Donc c'est un espace d'expérimentation politique et financier qui est hyper intéressant, qui effectivement est rattrapé, mais bon, comme tout, quoi, évidemment, c'est les gens qui ont le plus d'argent qui finissent par contrôler le monde et qui imposent leur vision du monde à eux, qui est rarement la plus belle, aux technologies qui s'approprient. Il se trouve que la technologie a quand même été pensée pour laisser de la place à d'autres choses, et c'était un peu sa racine à la base, d'être incensurable et d'être intrinsèquement ouverte, que tout le monde puisse se l'approprier. Donc ça reste le cas et ça continue de permettre de faire des choses qui peuvent être chouettes. Il faut juste que les gens s'en emparent. C'est compliqué pour les gens de se les approprier, parce qu'ils voient ça comme un mécanisme spéculatif, alors qu'il y a plein de choses très chouettes, à mon sens, politiquement, à faire dessus, quoi.
Merci Olivier Saroui d'être venu sur le plateau de 3 en 1. Je le rappelle, tu es maître de conférences en sciences de la communication, spécialisé en philosophie et en sociologie du numérique à Rennes 2. Merci à toi.
Merci beaucoup.
Manon, le 18 décembre dernier, tu t'es rendue au Champ Libre pour le colloque régional de l'éducation artistique et culturelle. Le thème choisi était l'éducation aux médias et à l'information.
Dans l'auditorium, beaucoup d'enseignants à qui le programme d'éducation aux médias et à l'information peut poser question. L'éducation aux médias est inscrite dans le code de l'éducation depuis 2013, renforcée après les attentats de Charlie Hebdo en 2015, puis généralisée depuis 2022.
Mais l'EMI existait bien avant.
Oui, parce que le CLEMI, le centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information, a été créé en 1983, mais surtout parce que bien avant de rentrer dans les programmes scolaires, l'éducation aux médias et à l'information se faisait dans les radios, et notamment les radio associative. François Saurin, auteur d'un article dans la revue Rééduquer les médias, nous parle du rôle précurseur qu'ont joué les radios associatives dans l'éducation aux médias et à l'information.
Elles le font en s'appuyant sur ce qu'elles font depuis longtemps, c'est-à-dire avoir des logiques de donner la parole à ceux qui veulent l'apprendre, de permettre l'appropriation des moyens de production et d'expression médiatique. Et elles sont aussi amenées à réfléchir avec d'autres acteurs à comment s'approprier les évolutions de l'environnement médiatique qui sont aussi fortes. On a parlé de l'IA, du numérique, voilà, tout, des nouvelles formes de consommation et d'usage de l'information et plus globalement de l'audiovisuel, etc.
Puis il y a aussi deux enquêtes qui ont été réalisées entre janvier et mai 2024 par le SNRL, Syndicat National des Radios Libres, et la CNRA, Confédération Nationale des Radios Associatives. Tu peux nous en dire plus ?
Oui, et bien selon ces enquêtes, on dénombre plus de 50 000 bénéficiaires et plus de 75 000 heures dédiées à l'éducation aux médias dans les 178 radios associatives qui ont participé à cette enquête.
Et on le sait, les radios associatives permettent de lutter contre la désinformation, mais aussi de découvrir l'univers radiophonique et médiatique.
En effet, et les principaux bénéficiaires de l'éducation aux médias et à l'information, selon les enquêtes du SNRL et de la CNRA, restent les scolaires, mais aussi les personnes étant dans des centres sociaux, venant dans des maisons des jeunes et de la culture, vivant dans des EHPAD ou encore incarcérées dans des centres pénitentiaires. Dans les radios associatives, un ou une salariée peut intervenir dans des écoles, mais pas seulement. C'est le cas par exemple à Canal B, et vous pouvez d'ailleurs retrouver les ateliers radiophoniques sur le site internet canalb.fr. Au-delà de ces ateliers souvent réalisés en dehors de la radio, François Saurin nous explique comment les radios associatives font de l'éducation aux médias et à l'information dans leurs propres studios.
Et cette idée de faire des médias, c'est au cœur des logiques d'éducation aux médias depuis longtemps. Globalement, dès les années 70-80, quand on commence à réfléchir à comment on va éduquer aux médias, tout le monde s'accorde sur l'idée qu'il ne suffit pas de dire quelles sont les bonnes manières de consommer les médias pour s'approprier ces enjeux-là. Le mieux, c'est de faire soi-même des médias, d'où les semaines de la presse à l'école, d'où les journaux dans les établissements scolaires, d'où les ateliers vidéo, radio, etc.
Et finalement, le principe même d'avoir des bénévoles qui prennent l'antenne est une preuve que l'éducation aux médias et à l'information ne se joue pas qu'à l'école.
Exactement.
Merci Manon et merci à François Sorin du réseau Ambap d'avoir accepté de parler au micro de Canal B. Merci aussi à Olivier Saroui d'avoir répondu aux questions de Julie sur la crypto et la blockchain. 3 en 1, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve mercredi à 12h15 pour une nouvelle émission et dès demain en rediffusion de 8h15 à 8h45. Bon après-midi.